qu'Andréane Mellor.
Merci Vincent Dublonge, à tout à l'heure. 6h43 à Kinshasa et Paris, dans 20 minutes un nouveau journal sur RFI. On va revenir sur la situation à Goma dans l'est de la RDC. Situation toujours extrêmement tendue sur place. Des tirs à nouveau entendus ce matin. On fait le point à 7h. Avant ça, analyse de la situation avec notre invité Afrique. Pourquoi maintenant? Pourquoi Goma? Autant de questions posées à Christophe Lutundula, ancien vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Congo Kinshasa, aujourd'hui sénateur. Il préside la Commission des relations extérieures de la Chambre haute. Rendez-vous dans 5 minutes, juste après le sport. Du sport et que du foot à la une ce matin. Bonjour Florence Valmé.
Bonjour Andréane.
Le décor est planté pour la CAN 2025 au Maroc. Les 24 équipes sorties des qualifications connaissent désormais leurs adversaires pour la phase de groupe.
Le tirage au sort effectué hier soir à Rabat a livré les 6 groupes du premier tour de la phase finale. Le Maroc, pays hôte et grand favori de la compétition, affrontera les Comores pour le match d'ouverture à Rabat le 21 décembre. Il y a également la Zambie et le Mali, éternel outsider, CAN après CAN. Le nouvel entraîneur des Aigles, Tom Seinfiet, se dit ravi par ce tirage au sort. Le Belge est ambitieux.
Ah oui, je suis très content. Avant le tirage, j'ai dit je suis ouvert pour tout. J'ai pas de demande, j'ai pas d'idées parce que chaque équipe qui est qualifiée, c'est une équipe forte. Et nous sommes aussi forts. Maintenant, je suis très content avec le tirage. On va jouer contre Maroc ici au Maroc. C'est toujours fantastique. Et avec Comores et Zambie, c'est deux équipes fortes. Mais on va être très bien préparé. Je suis très content avec ce tirage. On a une bonne équipe, on n'a pas peur de notre équipe et on a dit on veut jouer 7 matchs au CAN, ça dit le final ou le final des équipes qui perdent le demi-finale. Quand on est peur maintenant d'une autre équipe, on ne peut pas venir ici. Je suis très content et on va être prêt.
Des propos recueillis par Olivier Pron.
Dans le groupe, c'est le Nigeria, finaliste sortant, aura pour adversaire la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie.
Objectif pour les Super Eagles, conquérir une 4e couronne de champion d'Afrique. Ils devront pour cela redresser la barre après un début éliminatoire pour la prochaine Coupe du Monde calamiteux. C'est la priorité en tout cas du tout nouveau sélectionneur du Nigeria, le français Eric Schell.
Je pense qu'il n'y a pas de bon tirage. Toutes les équipes ont une chance de gagner. Maintenant, c'est à nous d'être bien concentrés, de travailler sur nous-mêmes. Et ça passera par des bons matchs en qualification de la Coupe du Monde pour bien préparer cette CAN.
D'habitude, les tirages au sort se passent 2 à 3 mois avant les compétitions. Là, ça fait presque un an. Est-ce que c'est un avantage pour le coach nouveau que vous êtes?
Écoutez, moi, je suis concentré sur mes matchs du mois de mars. Ensuite, il y a d'autres matchs. Et à partir du mois d'octobre, je serai concentré sur cette CAN. Mais d'abord, qualifions-nous pour cette Coupe du Monde. Et ensuite, on aura le temps de bien bosser et de continuer à progresser.
Eric Schell au micro de Ndiaye Sam, le Nigeria actuellement 5e de son groupe éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 avec 3 points pris en 4 matchs.
Un groupe sera particulièrement intéressant à suivre, Florence, c'est le groupe D.
Oui, avec outre la tête de série sénégalaise, la RD Congo, 3e de la dernière CAN, le Botswana et le Bénin, des guépards béninois qui espèrent bien tirer leur épingle du jeu, comme le confirme leur sélectionneur Gernot Rohr.
Le Bénin n'a pas encore gagné un match à la Coupe d'Afrique des Nations. En 2019, c'était que des matchs nuls et une victoire au pénalty. Là, on espère évidemment sortir du groupe. Un groupe qui n'est pas facile, avec de grandes équipes, de grands joueurs, mais c'est passionnant de les affronter. On a vu que le Sénégal peut être vulnérable. On avait fait un bon match nul à Cotonou, un partout. C'est une des favorites de ce tournoi. Mais c'est un tirage au sort avec de l'espoir, bien sûr, pour nous, de l'ambition de sortir de ce groupe et surtout l'obligation de bien se préparer.
Et le Bénin avait atteint les quarts de finale de la CAN 2019. Son premier match de l'édition 2025 les opposera le 23 décembre à Rabat à la RDC. Pour retrouver tous les groupes, direction le site rfi.fr. La CAN 2025 au Maroc aura lieu, je rappelle, du 21 décembre au 18 janvier prochain.
Et ce sera à suivre bien sûr sur RFI. Merci Florence Valmé, à tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mellard.
Le Hamas parle d'environ 300 000 déplacés de retour ce lundi dans le nord de la bande de Gaza à la faveur du récent cessez-le-feu entré en vigueur dans l'enclave palestinienne. Le gouvernement israélien a par ailleurs annoncé que 8 des otages retenus à Gaza devront encore être libérés durant la première phase de l'accord de trêve étaient morts. L'actualité de ce mardi, c'est aussi la RDC et la situation dans l'Est à Goma, alors que ce soir le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à nouveau pour parler de ces affrontements entre forces congolaise et combattants du M23 soutenu par le Rwanda. Après une nuit plutôt calme à Goma, des tirs à nouveau entendus ce matin, notamment aux environs de l'aéroport. Et puis la Colombie a envoyé hier 2 avions aux États-Unis pour rapatrier ses concitoyens, des migrants colombiens expulsés. Dernière étape d'un bras de fer entre Bogota et Washington. En République démocratique du Congo, la grande ville de Goma, capitale provinciale de la région du Nord Kivu dans l'Est, et ses 1 million d'habitants et quasiment autant de déplacés, tous vivent dans l'effroi depuis une semaine avec ces combats entre le M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda, et les forces armées congolaises aidées de leurs alliés. La ville est encerclée, les armes grondent dans certains quartiers, situation qui évolue d'heure en heure, mais qui suscite aussi la vive préoccupation de la communauté internationale. Pour en parler avec nous ce matin, Christophe Lutundula est notre invité. Pendant 3 ans, de 2021 à 2024, il a été vice-premier ministre congolais, ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, il est sénateur et préside la commission des relations extérieures de la Chambre haute. Et il répond à Christophe Boisbouvier.
Christophe Lutundula, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi le M23 et le Rwanda ont-ils décidé d'attaquer Goma à la fin de ce mois de janvier?
Je pense qu'il y a les raisons suivantes. La première, c'est que Goma, c'est une plaque tournante économique, particulièrement en ce qui concerne le commerce de produits miniers. Mais il y a une raison politique. C'est la soif d'hégémonisme du président Kagame. Il veut démontrer à la communauté internationale qu'il est le seul interlocuteur valable avec lequel il faut traiter en ce qui concerne les questions de sécurité, de paix et même les questions de coopération avec la région de Grand Lac. C'est comme qui dirait, il veut devenir le successeur du président Mobutu, qui a joué le même rôle pendant la période de la guerre froide. Toujours sur le plan politique, en fait, il veut humilier le peuple congolais en obligeant le président Tshisekedi de négocier avec ses protégés qui constituent son cheval de Troie, les M23.
Oui, alors cette attaque survient en effet 5 semaines après l'échec de la rencontre de Luanda, où Paul Kagame avait exigé que Félix Tshisekedi ouvre un dialogue avec les rebelles du M23. Le président congolais avait refusé. Est-ce qu'aujourd'hui, Paul Kagame cherche à imposer ce dialogue par la force?
Mais il ne s'en est jamais caché. Il a toujours dit qu'il n'y aura pas de solution s'il n'y a pas de négociation directe avec les M23. Mais là, je crois qu'il se trompe. Le président Tshisekedi, il a des fondamentaux. Quand il dit que c'est la ligne rouge, je crois que j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans. Ce sont des lignes, pas seulement le dialogue, l'intégrité territoriale, la souveraineté. Je ne crois pas du tout que Tshisekedi va accepter. Il est vraiment catégorique et il sera toujours le fils de son père.
Donc vous pensez que Félix Tshisekedi va refuser ce dialogue direct avec le M23. Mais ce qui frappe les observateurs depuis 3 jours, Christophe Lutundula, c'est le refus de l'Union africaine et des 3 pays qui représentent l'Afrique au Conseil de sécurité, l'Algérie, la Sierra Leone, la Somalie, de nommer le Rwanda comme pays solidaire des rebelles du M23 dans l'attaque sur Goma. Comment expliquez-vous cette bienveillance à l'égard du président Kagame?
Mais c'est très simple, c'est des modus operandi, je n'ose pas dire l'ADN de l'Union africaine. Nous en avons l'expérience, nous avons connu une crise politique grave du temps de président Mobutu, conférence nationale et ainsi de suite. L'Union africaine n'a rien fait. Il y a les grands barrages de la Renaissance qui opposent l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. L'Union africaine s'est mise à l'écart. Donc ce n'est pas une surprise. De toutes les façons, l'Afrique a un problème d'assumer sa souveraineté. Être souverain, c'est être capable de résoudre ce problème par soi-même. Donc il y a des intérêts économiques, les connexions avec les multinationales et les États qui soutiennent le président Kagame et qui profitent du pillage de ressources naturelles de la RDC, donc des pays africains. Évite de bousculer, d'indisposer ces États tutélaires.
En Afrique centrale, l'armée rwandaise est redoutée. Est-ce qu'elle fait peur à certains pays qui, du coup, n'osent pas se fâcher avec Kigali?
Bon, écoutez, on sait aujourd'hui que l'armée rwandaise est présente dans certains pays où il protège justement certains intérêts. Je ne veux pas énerver la susceptibilité diplomatique de ce pays-là. Il y a le Mozambique, il protège ce que vous savez. Il y a la Centrafrique, le Bénin, le Rwanda forme l'armée et on peut continuer la série. Donc, effectivement, c'est un élément qui intervient en conjugaison avec le fait d'éviter d'énerver la susceptibilité des tuteurs. Je crois que dans les circonstances actuelles, on doit être un peu plus ferme au niveau des décideurs. Et je crois que dans ce sens-là, tous les mécanismes de vérification qui ont été mis en place ne valent pas de la peine. Il faut les remplacer, à mon avis, par un dispositif de garantie mutuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on peut déployer le long de la frontière RDC-Rwanda une force internationale tampon, garantie par le Conseil de sécurité, l'Union européenne et peut-être l'Afrique avec le Conseil de paix et sécurité, de manière que le Rwandais sorte et que cette force garantisse qu'il n'y aura pas d'incursion parce que le Rwanda parle d'FDLR. Que de notre côté, le Rwanda va sortir, l'M23 va se replier, rentrer dans ses positions d'antan et cette force va créer les conditions du dialogue avec le Rwanda. Il faut ouvrir cette perspective-là, mais semble-t-il.
Christophe Lutundula, merci.
Entretien avec Christophe Boisbouvier à retrouver sur notre site www.rfi.fr. Votre chronique matière première sur RFI et ce matin on parle du secteur du café et de l'incertitude qui pèse sur l'un des principaux acteurs de cette filière, le Brésil, premier producteur mondial de café et notamment d'Arabica. C'est donc Brasilia qui donne en général le ton des prix dans ce secteur. Or, sur fond d'incertitude dans un contexte de réchauffement climatique, de crise environnementale, de récolte moins bonne, les prix battent des records et vont finir par faire baisser la demande. C'est ce que nous dit Marie-Pierre Olfant.
La grande inquiétude sur la production de café Robusta au Vietnam a été levée cet automne, mais cela n'a pas suffi à rassurer les opérateurs. Le marché a toujours besoin de la récolte d'Arabica du Brésil pour satisfaire la demande. Or, la sécheresse dramatique de la première moitié de 2024 peut encore avoir des conséquences cette année sur la production. Cette situation exceptionnelle a poussé d'ailleurs plusieurs maisons de négoce à faire des estimations précoces qui ont alimenté le stress plutôt que de calmer les esprits. La production 2025 d'Arabica chez le géant d'Amérique latine serait en baisse et comprise entre 34 et 42 millions de sacs de 60 kilos. Une fourchette encore très large, c'est ce que disent ceux qui préfèrent attendre courant février, voire fin février, pour avoir des informations de terrain plus représentatives. Les incertitudes de la filière sont aussi entretenues par un manque de visibilité sur les stocks. Le Brésil a exporté des volumes records l'année dernière, ce qui devrait en théorie se refléter dans le niveau des stocks et contribuer à une baisse des cours. Mais en Europe, l'état de ses réserves est rendu public avec beaucoup de retard et aux États-Unis, premier pays consommateur de café, aucun chiffre n'a été communiqué depuis 6 mois. Pour l'heure, l'horizon reste donc très incertain et l'approche des fêtes du nouvel an vietnamien n'arrange rien. Les producteurs de Robusta se sont mis en retrait, ce qui limite l'offre globale sur le marché. En attendant, les prix ont donc encore battu des records la semaine dernière et comme cela fait plusieurs mois qu'ils sont à un niveau élevé, l'industrie a répercuté ses hausses et cela pourrait encore se reproduire. Or, quand les prix grimpent trop, ils finissent par détruire la demande, autrement dit par décourager les acheteurs. Une mécanique annoncée qui, en retour, pourrait aider à faire baisser les prix. Mais dans quel délai, c'est une autre inconnue.
Marie-Pierre Olfond.
RFI Matin.
On reste en Amérique du Sud pour l'extrait de notre grand reportage du jour au Pérou. À Lima, 1,5 million de personnes n'ont pas accès à l'eau courante. Leur seul moyen d'approvisionnement, eh bien, c'est le passage d'un camion-citerne à l'avenue aléatoire et dont la qualité de l'eau est critique et critiquée. Et si les pouvoirs publics ne s'emparent pas rapidement du sujet, de plus en plus de Péruviens risquent d'être concernés. Selon une étude d'Aquafondo, le Pérou ne disposera en effet d'ici 40 ans que de 60% de ses ressources actuelles en eau. L'accès à l'eau dans la capitale péruvienne, avant tout le combat des pauvres, c'est un grand reportage de Marion Bellal à écouter aujourd'hui sur notre antenne. Extrait.
Une habitante de Villa Maria del Triunfo, la quarantaine, exaspérée et en colère, nous interpelle depuis le perron de sa maison en tôle.
Lo más necesario, más que todo, es el agua.
Le plus indispensable, plus que tout, c'est l'eau. Mais nous, ici, nous n'avons pas une eau saine. La majorité d'entre nous, nous avons une eau contaminée. Nous vivons ici dans une zone vulnérable où nous devons utiliser des cuves pour l'eau. Elles nous sont remplies par un camion qui vient tous les 15 jours. Donc, nous n'avons ni eau potable, ni des quantités d'eau suffisantes. Les familles sont contaminées.
La qualité de l'eau des camions-citernes, que les habitants n'ont donc pas d'autre choix que d'acheter, est effectivement très mauvaise. Toutes et tous ont pris le réflexe de la faire bouillir avant de la consommer ou de laver les plus jeunes enfants, d'utiliser d'importantes quantités de savon ou de lessive et de dissoudre, lorsqu'il y en a, des pastilles pour tuer les bactéries. Mais malgré ces contraintes, les pathologies sont nombreuses.
Ici, les familles, elles souffrent d'infections. On a des boutons, des maux de tête, des coliques. Et par-dessus le marché, on n'a pas de poste de santé à proximité. Il se situe à un peu plus de 2 km d'ici. Et marcher sur cette distance avec des coliques ou avec une infection n'est pas faisable pour un être humain.
Juste à côté, au bout d'un chemin poussiéreux, se dressent 3 citernes de 1100 litres d'eau chacune. Carlos Villa Cresperea vit dans cette zone de Lima et travaille comme volontaire pour l'association Emmaüs. Le trentenaire pointe l'une des citernes du doigt, c'est celle dont dispose sa famille. Chaque remplissage doit durer 7 à 15 jours, en fonction du passage du camion qui les ravitaille, et lui coûte 30 à 35 soles, soit environ 8 euros. Sa facture d'eau serait donc moins chère s'il pouvait être relié au système de distribution d'eau potable de la ville. Et surtout, il n'aurait pas à vivre dans la peur constante d'en gaspiller une goutte.
Nous posons des récipients, par exemple un pour laver la vaisselle ou un autre pour laver les vêtements. Et ensuite, cette eau, elle nous sert pour la chasse d'eau, parce que si on utilisait de l'eau propre pour les toilettes, on se retrouverait vite sans eau. Il y a même de nombreuses personnes qui ne se lavent pas tous les jours, mais 3 fois par semaine. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de se retrouver sans eau.
Ce grand reportage de Marion Bellal, dont vous venez d'écouter un extrait, et qui sera retrouvé en intégralité aujourd'hui sur notre antenne. Rendez-vous midi 10 et 20h40, hors de Paris, ainsi que sur notre application RFI Pure Radio.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Gabon, avec 3 mois d'avance sur le calendrier initial, les listes électorales sont en cours de révision et l'élection présidentielle se tiendra en avril au lieu du mois d'août. La transition se terminera-t-elle plus tôt que prévu ? Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.